dire à la redresser en quelque sorte, à la guérir. Mais c'est aussi un dépouillement intellectuel parce que Dieu est au-delà de ce qu'on peut penser. Donc il est au-delà des énoncés qu'on a sur lui. Souvenez-vous aussi que de ce que dit saint Thomas d'Aquin, il dit que la foi non ad enunciabile sed ad rem terminatur. Elle se termine, enfin elle vise pas simplement l'énoncé, mais la chose même. Donc la foi, d'une certaine manière, elle est suprarationnelle. Et dans la mystique chrétienne, ce qui est typique de la mystique chrétienne, c'est pas la vision rationnelle, la vision de l'idée, en quelque sorte, mais c'est l'étreinte de Dieu, et au-delà justement des idées qu'on peut s'en faire, et c'est la raison pour laquelle tous les mystiques vont utiliser le cantique des cantiques, qui est justement ce chant, on peut presque dire érotique, de l'union charnelle qui se produit dans la nuit. Donc c'est l'idée qu'on ne voit pas celui qu'on embrasse, en un mot. C'est-à-dire, on peut toucher Dieu, on peut atteindre Dieu, mais on ne peut pas le mettre en équation, si on veut. Donc c'est l'idée que, finalement, la charité va au-delà de la foi. Autrement dit, la charité qui est basée sur la volonté, qui est hantée sur la volonté, eh bien, elle va plus loin que la foi qui est basée sur l'intellect. Notre intellect, il va moins loin que notre volonté. La foi touche moins Dieu que la charité. Maior extat caritas, c'est un vers d'une des hymnes du bréviaire qui remonte au 4e siècle, je crois bien. Donc, des trois théologales, la charité est la plus grande. D'ailleurs, il suffit de dire saint Paul, c'est tiré de 1 Corinthiens 12. Donc, comment notre Grégoire nous montre ça ? Il nous le montre à travers l'image de l'entrée dans la ténèbre. Et c'est pour ça qu'il sert de l'Exode. Dans l'Exode, il y a une ténèbre qui arrive comme ça, au bon moment. Une ténèbre lumineuse la nuit et obscure le jour, pour empêcher les Hébreux de rattraper empêcher les Égyptiens de rattraper les Hébreux. Et alors, il y a une autre ténèbre qui apparaît aussi, c'est sur le mont Sinaï, au moment où le peuple est un peu terrorisé et que Moïse doit monter pour recevoir la loi. Et il y a globalement une éruption volcanique. D'abord, on a tous les symptômes cliniques de l'éruption volcanique. Et alors donc, Moïse monte dans la nuée. Donc il monte vers Dieu, mais il ne monte plus dans la claire vision de Dieu, dans une lumière qui serait de plus en plus lumineuse, mais il monte dans quelque chose de plus en plus ténébreux, et où en revanche le son est de plus en plus clair, etc. Donc d'un côté, il sait qu'il se rapproche de Dieu parce qu'il entend davantage, mais en même temps, plus il avance, moins il voit. Et c'est un peu ce que veut montrer Grégoire de Nyssa, c'est qu'on n'arrivera jamais à mettre la main sur Dieu. Même plus on s'en rapproche, plus on a l'impression qu'on entre dans une ténèbre plus épaisse. Parce que plus on sait une chose sur Dieu, plus on s'aperçoit qu'il y en a encore davantage qu'on ne sait pas. Et donc, plus notre connaissance objectivement croît, plus notre inconnaissance, on pourrait dire, croît au carré. Voire puissance, je ne sais pas combien. Et
quand un pan de Vézelay où le Christ est très vivant par ses pieds, il embrasse la terre. Quand on remonte, son visage devient de plus en plus mystérieux.
Ah bah oui, voilà.
C'est un point des êtres. Ah bah oui. très
certainement, le bas, c'est ce qu'on peut atteindre. Mais plus on monte, moins on sait. Le concile de Latran IV, bon, avant, c'était facile à s'en souvenir dans les éditions les éditions jusqu'à la dernière, en gros, du recueil de Danziger, Sean Metzer. Au numéro 800, il y avait cette affirmation du 4e concile de Latran, donc au début du 13e siècle, qui disait de Dieu, quand on note une ressemblance, il faut affirmer une dissemblance plus grande encore. C'est-à-dire ne pas s'imaginer qu'on arrivera à, je dirais, le capturer dans le système de nos catégories. Et alors, donc, Grégoire le montre à travers cette image de la ténèbre. Et alors, ce qui est amusant, c'est le jeu de mots, finalement, en grec, parce que gnosis, c'est la connaissance, hein, et gnophos, c'est la ténèbre. Et c'est une homophonie. Et pourtant, vous voyez bien que la connaissance suppose la lumière. Hein. Pour les Grecs, c'est voir, connaître. D'ailleurs, pour nous aussi, hein, est-ce que vous avez vu, on dit ça souvent quand on veut faire comprendre quelque chose. Là, c'est le contraire. C'est vraiment quelque chose qui va être repris par toute la mystique du haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge tout court, et de l'époque moderne. Les saints Jean de la Croix, tous ces gens-là vont la nuit obscure, hein, c'est bien ça. Hein. Bon. Et alors, il va interpréter les figures de l'Ancien Testament moins comme des personnages historiques qui auraient des choses à nous dire que comme précisément des figures de cette recherche de Dieu. Et c'est pourquoi il prend l'exemple de Moïse, parce que ça lui paraît assez archétypique. Alors, néanmoins, si Dieu se dérobe à notre connaissance claire, eh bien, il se rend présent par son inhabitation dans notre âme. Autrement dit, c'est par la grâce que Dieu est présent en nous, mais d'une manière quasiment invisible. Et ce mouvement d'ascèse contemplative est sans fin. Alors, vous voyez, on retrouve toute la dialectique platonicienne. Vous vous souvenez, mais oui, il y en a un autre aussi. Enfin, je crois que c'est dans le banquet où Platon dit qu'il faut sans cesse nier l'élément de beauté créée auquel on est parvenu, parce que la beauté est toujours au-delà de sa réalisation concrète. Et ainsi, on arrive à l'idée de beau et de bon qui est. Et alors, on retrouve ça par exemple dans les confessions de Saint Augustin, qui est bien platonicien de ce point de vue-là. Saint Augustin, quand il parle de sa recherche de Dieu, il parle des créatures qui lui parlent de Dieu et qui, chacune à leur degré, lui disent « Mais nous ne sommes pas ton Dieu, cherche plus haut, et va toujours plus haut. » Donc, va vers les choses belles, mais ces choses belles sont toujours finies. Et donc, ce que tu recherches dans les choses belles, c'est l'infini qui les fait belles. Donc, va plus haut. Donc, et c'est exactement ce que Grégoire appelle l'épectase. En fait, il le reprend à saint Paul, qui dit qu'il est tout tendu. Ayant été saisi, il cherche à saisir celui qui l'a saisi, ne s'arrêtant pas au degré où il est parvenu, mais toujours tendu vers l'avant pour aller toujours plus loin. Et pour Grégoire de Nyssa, c'est véritablement le dynamisme propre de la vie mystique, de la vie déjà d'ici-bas, mais même de la vie dans l'au-delà. C'est-à-dire, une fois qu'on sera parvenu sur l'autre rive, on ne sera plus comme deux chiens de faïence à regarder Dieu et puis se dire pendant toute l'éternité, on va regarder Dieu tel qu'il est, quoi. Et bon, c'est intéressant, hein, mais comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais...
C'est Alphonse
Allais. Oui, Alphonse Allais a dû le dire avant. Et alors, mais précisément pour Grégoire de Nyssa, ce qui est caractéristique, c'est que le mouvement de connaissance de Dieu s'intensifie Et toujours rassasié, à la différence de d'ici-bas où il n'est pas toujours rassasié, mais dans la vision béatifique, il est toujours rassasié, mais en même temps, il creuse toujours une faim qui appelle un nouveau rassasiement. Donc on est dans un mouvement, un dynamisme continuel, parce que Dieu étant infini, ben, l'âme finie, même pendant toute l'éternité, elle ne parviendra pas à en faire le tour. Hein, comme disait Aristote, l'infini est intraversable. Et Dieu ne cesse de se livrer davantage, mais il livre toujours davantage que ce que nous pouvons prendre. Alors nous cherchons toujours plus. Donc vous voyez, on ne s'ennuiera pas dans l'éternité. Je ne sais pas si le père de Blinière avait dit ça, mais j'ai dû faire une sieste pendant sa dernière conférence. Mais, enfin non, parce que j'étais chez moi, mais c'est pour ça que je n'ai pas suivi sa conférence. Mais il a dû en parler. Alors c'est ce qu'on appelle l'épectase, c'est le terme qu'avait utilisé un commentateur de Grégoire de Nice, le cardinal Danielou. Alors, bah, comme ça se prononce. Alors là, c'est pas compliqué. Donc, le désir de l'homme ne peut jamais être rassasié parce que... enfin, disons, il est tout le temps rassasié, mais en même temps, toujours en mouvement. Vous voyez ? Parce que Dieu est infini. Oui, sauf que donjon, à chaque fois, c'est par une sorte de... Oui, c'est pas un rassasiement.
C'est un sujet différent.
Oui, voilà, c'est ça. C'est la multiplication des choses sur le même degré. C'est l'archétype du matérialisme. C'est-à-dire, on cherche une plénitude et on a la plénitude que dans la quantité. Vous voyez, c'est, bah, ça fait penser à ce que disait Mercier hier avec l'indigestion, là, avec les gens qui les gonflent. En fait, c'est rechercher une plénitude d'un ordre supérieur à l'ordre qui est en dessous. Et du coup, on cherche cette plénitude par la quantité, en multipliant. Ben, c'est typique de Don Juan. Au lieu de chercher le véritable amour conjugal, il multiplie des amours partiels et décevantes, évidemment. Et globalement, c'est le matérialisme est fondé là-dessus, sur la multiplication de satisfaction partielle, alors qu'on est traversé par un... En tant qu'esprit fini fait pour l'infini, on est traversé par un désir d'infini et qui ne peut être jamais rassasié par des choses finies. C'est très bien compris, saint Augustin, Platon avant et tous ces gens-là. Alors, par exemple, il dit « Ainsi en est-il de celui qui regarde vers la beauté divine et illimitée. Ce qu'il découvre sans cesse se manifeste à lui comme étant absolument nouveau et étonnant par rapport à ce qu'il a déjà saisi. Aussi admire-t-il ce qui à chaque instant se révèle à lui et ne cesse-t-il jamais de désirer davantage, car ce qu'il attend est encore plus magnifique et plus divin que ce qu'il a vu. » Vous voyez ? C'est-à-dire, à chaque fois, on reçoit plus que ce qu'on a conscience de désirer, et du coup, ça nous donne envie de toujours désirer davantage, parce qu'on sait qu'on sera comblé encore beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer recevoir. Vraiment, ça me fait penser à la dernière page du septième volume de Narnia, vous savez, de Lewis, qui était quand même un spécialiste de littérature du Moyen-Âge et qui dit, enfin, désolé de spoiler, mais je ne sais pas si vous allez vous laisser dans les 1000 pages de Narnia. Donc, les petits Pevensey se retrouvent au ciel et là, il dit, ils s'aperçurent que tout ce qu'ils avaient vécu dans ce monde merveilleux de Narnia n'était que la page de garde d'un roman dont chaque page était plus belle à lire que la page précédente, et cela jusque sans fin. Donc quelque chose comme ça. Et c'est exactement la doctrine de l'épectase de Grégoire de Nice. Donc notre vie, c'est un peu comme la page de garde d'un roman merveilleux dont chaque page est plus intéressante que la page qui précède. Donc vous voyez que dans l'éternité, il y aura de quoi faire. Hein. Et ça, c'est bien, parce que vous savez, quand on prépare un cours sur les fins dernières, on a globalement assez bien de choses à dire sur l'enfer, sur le purgatoire, mais quand on arrive au chapitre du ciel, on se retrouve quand même avec assez peu de choses à dire. Moi, j'en ai fait l'expérience en préparant mes cours, pour, notamment pour notre archevêque, puisqu'il m'a eu mon cours. Et alors, si on ne recourt pas au mystique, on est vite perdu hein, dans le domaine de la... Et je peux vous dire que les mystiques parlent plus savamment du ciel qu'ils ne parlent de l'enfer, parce que l'enfer, ils n'en ont pas d'expérience. Ils ont des images, des choses comme ça. Mais le ciel, ils l'ont déjà anticipé dans leur propre mystique. Donc, c'est plus intéressant de les lire sur la question du ciel. Alors, on peut dire que toute la doctrine de Grégoire de Nyssa a marqué l'Occident, et même l'Orient, mais l'Occident en particulier, à cause d'un de ses disciples. Devinez lequel ?
Jérôme.
Non, un de ses disciples dont le nom a servi à la, comment dire, d'autorité pour recevoir cette doctrine. Le pseudo-Denis, l'Aréopagite. Donc le fameux Denis qui n'est pas le disciple de saint Paul, mais qui vivait au VIe siècle, donc qui a été disciple de Grégoire de Nyssa. Comme on croyait au Moyen-Âge que c'était le disciple de saint Paul, et le premier évêque de Paris en passant aussi, il avait une autorité naturelle, du coup, qui a imposé assez aisément la doctrine de Grégoire, qui en plus était confirmée par l'expérience des mystiques que le monachisme occidental n'a jamais cessé d'avoir. Et donc, en Occident, c'est Grégoire le pseudo-Denis, et en Orient, ça sera saint Grégoire Palamas, qui est un des grands mystiques, le dernier grand théologien mystique de Byzantin. Alors notre saint Grégoire semble bien être entré dans cette ténèbre divine. D'ailleurs, quand vous regardez sur Google, quand vous mettez ténèbres au pluriel, vous n'avez pas de soulignage rouge. Quand vous mettez au singulier, vous avez un soulignage rouge. C'est-à-dire que c'est un terme, en fait, qui n'est pas un terme français. Mais le singulier pour ténèbres, c'est devenu un terme technique de spiritualité pour désigner cette expérience mystique. Vous avez, par exemple, le nuage de l'inconnaissance, qui est un écrit anglais du Moyen-Âge d'un anonyme. Vous avez les écrits de Sainte Julienne de Norwich, et puis plein d'autres, Reusbrook, puis toute la mystique carmélitaine et autres. Donc tout ça...
Thérèse de Lisieux vers la fin, c'était ça ?
Ah oui, avec toutes les idées aussi de nuit de l'âme, hein, de nuit mystique. La ténèbre n'est pas toujours agréable. Hein. Donc Grégoire semble bien être entré dans cette ténèbre divine, lui qui prôna la modération, hein, parce qu'il était aristotélicien de ce point de vue-là, donc qui prôna la modération et qui fut marié. Hein. Donc vous voyez que c'est... Enfin bon, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Vous savez, il est devenu évêque. Je pense que sa femme a dû devenir abbesse quelque part, ou elle est peut-être décédée. Ça se peut. Ça se faisait aussi, oui. Mais ça se faisait. Enfin, on devenait évêque après la mort de son épouse. Enfin, on ne tuait pas son épouse pour devenir évêque. Voilà. Alors, après, je voulais vous parler... on a encore un peu de temps, du pharaon d'Égypte. C'est comme surnom donné à saint Cyril de...
Ah bon ?
Ah mais non, pardon, je voulais parler de saint Cyril de Jérusalem. Non, c'est pas lui. Non, j'ai déjà parlé de saint Cyril d'Alexandrie.
Oui.
Donc là, c'est grand B, fin du 4e siècle.
Cyril de Jérusalem.
Petit A, saint Cyril de Jérusalem. Plus ou moins 315, 387. Alors, commençons par dire que nous savons peu de choses de sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'il est prêtre en 348, qui est plus ou moins l'année de naissance de saint Augustin, non, je me trompe.
347.
Ah oui, voilà. Merci. Et puis, il sera évêque en 351. Et il va participer au concile de Constantinople, donc au concile dirigé par Grégoire de Nazianze. Il est de tendance plutôt homoiousienne, dont vous vous souvenez, le petit iota, mais ce n'est pas vraiment un théologien. Alors, bon, il pouvait ne pas vraiment avoir compris ce qui était derrière sa tendance, en fait.